On débute par des chiffres avec ceux du dernier recensement qui sont sortis hier. On vous parle aussi de résidences secondaires, de travaux au port. Et on vous donne des news de notre équipe de beach soccer qui a débuté sa Coupe du Monde par un succès. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une aujourd'hui, cette nouvelle photographie de la population polynésienne.
Oui, une photographie prise en 2022 à l'occasion du recensement. On savait jusqu'à présent peu de choses sur ces résultats, mis à part ce chiffre confirmé hier, 278 786. C'est bien sûr le nombre d'habitants du Fénois qui continue de croître, mais de moins en moins vite, 3% par an à la fin des années 70, 1,8% par an au début des années 2000 et 0,2% par an à peine aujourd'hui. Pas question pour l'ISPF de faire de la prédiction, mais une baisse de la population dans les prochaines années peut facilement être envisagée. Ce qu'il faut tout de même noter, c'est que toutes les communes ne suivent pas la même tendance, Charlie René.
Oui, et pour une fois, Val-de-Marne, ça n'est pas la zone urbaine de Tahiti qui se taille la part du lion. Papeete et Pirée perdent même des habitants. Punaouia en gagne davantage que Faa'a et risque bientôt de lui prendre sa place de première commune du Fénois. Mais c'est bien ailleurs que les chiffres du recensement bondissent. 9% d'habitants en plus en 5 ans à Talavao, Mahaena, à la Presqu'île. Une dizaine de pourcents aussi à Afaraitu, à Morea. Côté archipel, les Raromatai sont tendance avec 1,7% d'augmentation de leur population, comme les Marquises, avec 1,4%. En revanche, les Tuamotu perdent quelques centaines d'habitants et les Australes se vident rapidement, 5% d'habitants en moins en 5 ans et 12% de moins à Lulutu, Val-de-Marne.
Voilà, et les premiers chiffres de ce recensement 2022 permettent surtout d'expliquer le ralentissement démographique. 1700 décès entre 2017 et 2022, c'est un peu plus que sur la période précédente, vieillissement et Covid oblige. Mais surtout 3600 naissances, c'est beaucoup moins sur la même période, 500 bébés polynésiens en moins par an, c'est ce que mesure l'ISPF. Le solde naturel de la Polynésie est tout de même positif et heureusement Charlie René, puisque le solde migratoire, lui, est largement négatif.
Voilà 10 ans déjà que le nombre de départs du Fénois est plus important que le nombre d'arrivées. Des départs, il y en a eu 20 500 en 5 ans, dont près d'un quart de 18-25 ans. Un jeune adulte sur 10 quitte le Fénois chaque année. Ça a de quoi interpeller. Dans l'autre sens, 14 000 personnes se sont installées dans le pays. C'est là aussi en augmentation, mais c'est loin d'être assez pour équilibrer ce solde migratoire. La majorité de ces arrivants sont natifs de la métropole, des fonctionnaires notamment. Mais la proportion d'hexagonaux est en légère baisse dans les arrivées, contrairement à celle des natifs. 2100 Polynésiens sont revenus au pays en 5 ans. Voilà de quoi alimenter bien des débats, Val-de-Marne.
Oui, et notamment les débats autour des déclarations de certains élus Tavini sur le blanchissement de la Polynésie. Alors, pas de statistiques ethniques dans les recensements, c'est interdit, mais d'autres indications, écoutez.
Par contre, nous avons le lieu de naissance des personnes, oui. Et donc, on observe que 88% des habitants de Polynésie sont nés en Polynésie. C'est une proportion qui s'accroît très légèrement. Et la part des personnes nées en France hexagonale, elle atteint 8,8% en 2022. C'est une part qui, en 20 ans, a très légèrement décru.
Vous avez entendu Nadine Jourdan, la directrice de l'ISPF, qui précise aussi, sur la base de ce recensement, que l'âge médian en Polynésie est passé de 21 à 34 ans depuis les années 80 et que l'espérance de vie continue d'augmenter, 79 ans pour les Polynésiennes et 75 ans pour les Polynésiens.
Et ce recensement a aussi permis de faire le point sur une explosion, celle du nombre de résidences secondaires.
C'est l'un des enseignements marquants. Le nombre de résidences secondaires avait déjà augmenté de 24% entre 2012 et 2017. Et bien en 2022, cette catégorie qui inclut les maisons et appartements loués toute l'année en tant que meublés de tourisme, notamment via Airbnb, et bien elle rassemblait 9200 logements, soit une augmentation de 37% sur l'ensemble du Fénois, voire même de 40% aux îles sous le vent. Dans le détail, certaines communes ont vu une réelle explosion de ces résidences secondaires, neuves ou simplement utilisées différemment par leurs propriétaires. Plus 88% depuis 2017 à Morea, plus 252% à Bora Bora ou encore plus 173% à Wahine. Interrogé sur ce phénomène, le ministre des Finances, Tevaiti Pomare, a indiqué pour sa part le voir plutôt d'un bon œil.
Effectivement, on constate qu'il y a les résidences secondaires ont augmenté de 37%. On suppose que la plupart sont des logements de tourisme. Donc c'est un point important parce qu'on veut développer le nombre de touristes en Polynésie et puis ce sont des structures qui peuvent accueillir nos touristes.
Une position certes cohérente avec les ambitieux objectifs touristiques du gouvernement Brotherson. On le rappelle, 600 000 touristes dans 10 ans, contre environ 261 000 l'année dernière, mais qui détonne avec le débat intense autour de la crise du logement au Fénois. La multiplication des Airbnb et autres meublés touristiques est souvent pointée du doigt pour expliquer la hausse de prix sur certains segments du marché et la difficulté de certaines familles à trouver un logement. Devaiti Pomare estime qu'il faut trouver un juste milieu dans le développement de ces locations saisonnières. À noter également que selon les premiers résultats du recensement 2022, le nombre de résidences principales a aussi augmenté par rapport à 2017, mais dans une bien moindre proportion, plus 7,4% en 5 ans, sous la pression notamment de l'éclatement des foyers familiaux.
7h05, santé, le ministère s'inquiète de la progression de la dengue.
Oui, depuis novembre dernier, ce sont 14 cas qui ont été détectés à Tahiti et Moorea. Hier, le ministre a participé à une réunion sur le sujet. Alors, la dernière épidémie remonte à 2020 et les jeunes enfants sont donc vulnérables. Les plus récentes créent un environnement favorable à la multiplication des moustiques et le ministre déclare vouloir monter d'un cran la prévention, en rappelant évidemment les consignes habituelles d'élimination des gîtes à moustiques et d'utilisation de répulsifs et en appelant les personnes symptomatiques à consulter leur médecin. En revanche, il n'est plus question de pulvérisation d'insecticides dans les quartiers. Les cas identifiés sont autochtones, ce qui signifie que la maladie circule et affecte probablement davantage de personnes. Et les autorités de santé considèrent donc qu'il est trop tard pour utiliser cette méthode. Le ministère place des espoirs à moyen terme dans les lâchers de moustiques stériles expérimentés à l'Institut Mallardé de Paea, une technique dont on parle en Polynésie depuis plusieurs années avec des essais concluants à Tetiaroa par exemple. À noter que la Nouvelle-Calédonie est d'ailleurs beaucoup plus avancé que nous sur le sujet. Là-bas, on estime avoir déjà établi une protection contre la dengue pour 70% de la population.
On parle de travaux maintenant avec la pose de cette première pierre hier au port de Papeete.
Et plus précisément à la base navale qui attend, vous le savez, deux nouveaux patrouilleurs ultramodernes dans les prochaines années. Le premier, le Terriero a Terriero Iterai, doit arriver avec un peu de retard au mois de mai. Le second, le Philippe Bernardino, sera là début 2025. Des patrouilleurs plus gros, plus modernes aussi, avec plus de portée, plus d'équipement, mais qui posent un problème. Si le premier remplacera l'Arago qui doit quitter le Fénois en juin, le second fera grossir la flotte et la base manquera alors de place pour amarrer ses bâtiments, d'où le lancement hier du chantier d'un nouveau quai près du dock flottant et qui devra d'ici 18 mois accueillir les deux navires. Le commandant des forces armées le précise, ce n'est pas là le seul changement à attendre du côté des outils militaires.
Dès cette année, fin 2024, on va recevoir aussi un nouvel avion qui va renouveler nos vieux Falcon pour une capacité de surveillance maritime qui là aussi, comme le patrouilleur, va doubler les rayons d'action. Ça va être aussi un gros changement et ça va être poursuivi en 2026 par l'arrivée d'un nouveau patrouilleur dans la gendarmerie qui va remplacer notre Jasmin qui a déjà un peu d'âge. Et puis en 2027, l'armée de terre renforcera le régiment. Il sera renforcé tout au long des années, mais le gros du renforcement arrive en 2027 pour le régiment.
Voilà le contre-amiral Geoffroy Dandigné qui a donc posé hier avec le président, le Tavana Michel Buyard et les représentants du Ossaria la première pierre de ce nouveau quai des patrouilleurs. Coût de l'opération 2,2 milliards de francs. Et là aussi, ça n'est qu'un début puisque la nouvelle loi de programmation militaire prévoit du renfort en Polynésie humain avec 223 militaires en plus à Tahiti d'ici 2030, dont une trentaine dès cette année. Des renforts aussi financiers, 600 milliards d'investissements dans le Pacifique sur la période 2024-2030.
Des travaux encore mais sur la route ce week-end.
Oui, le ministère des Grands Travaux a confirmé la nouvelle phase du chantier de réhabilitation du pont de la Punaru. Le viaduc sera donc fermé à la circulation de vendredi soir à lundi matin et le rond-point situé en dessous sera partiellement praticable, mais attention, il ne permettra pas les demi-tours. Le viaduc sera ensuite remis en service jusqu'au 5 avril avec des limitations de vitesse mais aussi de hauteur et de tonnage des véhicules.
Du sport pour terminer ce journal, les Tiquitois débutent bien au mondial de beach soccer.
Oui, victoire 4-3 cette nuit contre l'Argentine à Dubaï pour nos Tahitiens. Malgré un premier but encaissé dès le début du match, les Tiquitois ont bien réagi grâce à Airo Arisalem, auteur de deux buts, de Rayman Alifunku et Roonuitinirao Ari, tous deux auteurs d'un but. Les Tahitiens qui menaient donc 4-1 se sont ensuite fait peur en fin de partie avec deux buts encaissés dans les 5 dernières minutes, mais ils ont su tenir leur avantage, notamment grâce au gardien Jonathan Torohia, élu homme du match. On écoute l'analyse du capitaine Raimana Lifunkui.
Le fait d'avoir encaissé en premier, ça ne nous a pas facilité la tâche. On a su se ressaisir, on savait qu'on avait le temps, on savait de quoi on était capable. Je pense que vers la fin, on s'est un petit peu relâché. Après, c'est toujours comme ça, hein. C'est difficile toujours pour nous dans ces premiers matchs de Coupe du Monde. On a toujours du mal un peu à rentrer dedans. Mais sinon, grosse satisfaction parce que le principal, c'était de ramener les 3 points. C'est ce qui ressort positif dans ce match, c'est que tout n'a pas été parfait, mais on le sort quand même avec la victoire.
Voilà, les Tiquitois vont désormais regarder le match de leurs futurs adversaires, l'Espagne, qui va jouer contre l'Iran. La rencontre contre les Espagnols, c'est dans 48 heures et l'Iran, ce sera deux jours plus tard. Objectif terminé dans les deux premiers du groupe pour se qualifier en quart de finale.
Sport toujours, on revient sur le conflit entre les deux fédérations de boxe du Fénois.
Oui, on vous en parlait hier, la fédération de boxe de Polynésie française, présidée par Ismaël Tagata, qui avait représenté le Fénois aux Jeux du Pacifique en novembre, eh bien elle a perdu son agrément ministériel mardi, quelques mois après le retrait de sa délégation de service public. Une délégation qui vient justement d'être accordée à la fédération concurrente, la Polynesian Boxing Association, présidée par Tauhiti Nena, qu'il avait lui-même perdu en 2016. La ministre des Sports Nahema Temari assure que ce nouveau rebondissement n'est pas une décision politique.
Moi, je dors sur mes deux oreilles parce que non, ce n'est pas une décision politique. Je n'ai reçu aucun ordre ni du Tavini Huiratira ni du président de la Polynésie française. Je n'ai aucune affinité avec Tauhiti Nena, à part peut-être le fait qu'effectivement mon conseiller technique au sport soit Pure Nena. Et je le dis et je le clame haut et fort. Ce n'est pas parce que Pure Nena est le frère de Tauhiti Nena que je vais me passer de ses compétences, de sa vision pour les sports et son expérience dans le tissu associatif.
Alors pour justifier son choix de retirer l'agrément ministériel à la FBPF et d'accorder la délégation de service public à la PBA, Nahema Temari estime que la fédération d'Ismaël Tagata n'a pas respecté les décisions de la commission qui avait été créée en septembre pour déterminer le processus de sélection pour les Jeux du Pacifique au Salomon. En effet, la FBPF avait réussi avec le soutien du COPF à gagner son ticket pour Honiara en s'affiliant à une fédération internationale. Une stratégie qui a déçu la ministre qui dit avoir eu en tête à ce moment-là un seul objectif. Celui, dit-elle, d'envoyer la crème des boxeurs pour représenter le Fénois. Elle précise tout de même être fière des médailles rapportées par les boxeurs d'Ismaël Tagata. Mais le motif sur lequel elle dit ne pas pouvoir fermer les yeux, c'est surtout les irrégularités contenues dans les documents comptables de la FBPF.
La délégation de service public, c'est un gage de confiance. La base, c'est la gestion des deniers publics. Ismaël, il pense ce qu'il veut, mais en réalité, c'est les irrégularités contenues dans les documents comptables et les graves dysfonctionnements de la gestion comptable de la fédération de boxe. Et donc, le retrait de l'agrément